Il est pour l'instant 17h19. Vous êtes toujours à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal, également votre AM 1040. Et nous sommes également sur CPAM TV. Nous sommes sur Facebook Live. Alors, à 17h20, notre ami chroniqueur Éric Lantier, chroniqueur politique et social, est avec nous. Bon après-midi, mon cher Éric Lantier.
Bon après-midi, M. Pierre.
Ça va bien, Éric Lantier?
Moi, mon moral va bien, mais je suis à quelque part un peu fâché.
Pourquoi?
Écoutez, je viens d'apprendre qu'au Danemark, les écoles ont fermé en même temps que les nôtres. Mm-hmm. Et là, on les ouvre. Alors que j'ai appris ce matin que ça allait prendre un mois pour préparer l'ouverture d'une école québécoise, alors qu'au Danemark, ils ont fermé en même temps que nous et ils n'ont pas besoin d'un mois supplémentaire pour les ouvrir, là. Ils étaient prêts. Qu'est-ce que nos dirigeants scolaires ont fait depuis le 13 mars? Si ça prend un mois, on est le 15 avril, pourquoi ils n'ont pas débuté l'opération le 13 mars? Expliquez-moi ça, je comprends
pas. Alors, est-ce qu'il s'agit d'opérations matérielles, beaucoup plus que ça, pour réouvrir les écoles, ou est-ce qu'il s'agit de manifestations, si on peut s'exprimer ainsi, du point de vue de la santé, des démarches au niveau de la santé et toutes les inquiétudes qui entourent la réouverture des écoles par rapport à ces jeunes-là?
Ah, là, vous touchez un bon point. Maintenant, les raisons qui ont été soulevées sont des raisons administratives, des raisons qui touchent la gestion sanitaire, des raisons qui touchent la préparation du matériel, la préparation de classe. Maintenant, si on dit oui, on va ouvrir les écoles parce que sur le plan sécurité, sur le plan santé, les dangers sont minimes. Maintenant, même si on disait ça aujourd'hui, même si les autorités arrivaient à prouver qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, les directions d'école vont nous dire ben ça nous prend un mois pour ouvrir les écoles. Alors qu'au Danemark, ils étaient prêts. Alors, moi je sais, j'ai été directeur d'école. Je peux vous dire une chose, les raisons qu'on a soulevées, qui ont été données, sont des raisons qui ne tiennent pas la route.
Les écoles, en général, ouvrent fin septembre, n'est-ce pas? Ouais. Ou au milieu du mois de septembre. Est-ce que, avant la grande ouverture ou la réouverture, est-ce qu'on prend un mois de préparation pour des raisons qu'on vient d'évoquer, la préparation au retour en classe. Est-ce que ça prend un mois?
Ben, pas dans le sens que quand on est bien organisé, oui, ça prend du temps de préparation pour ouvrir une nouvelle année scolaire. Mais là, il y a une année qui est en cours et il y a eu un mois d'arrêt où est-ce que les enseignants ont été payés. Et normalement, il me semble, quand on est une autorité scolaire, on donne des tâches aux enseignants qui sont payés pour se préparer au retour. Parce que c'était pas, en tout cas, dans la communication gouvernementale, il n'était pas question de fermer l'école jusqu'en septembre. Mmh. Alors, maintenant, si c'est pour des raisons sanitaires, eh bien, ils ont eu un mois pour nettoyer puis faire le ménage, désinfecter. Alors, pour moi, ça, c'est pas une raison. La préparation pour l'année qui s'en vient, ça commence au mois de mars, normalement. Mais là, tu sais, par exemple, commander les livres, commander tout le matériel nécessaire, les nouvelles craies, les nouveaux bureaux, tout ça se fait en cours de route.
Éric, oui? On semble varger un peu, excusez l'expression, sur oui. le dos des enseignants, sur le dos des syndicats et tout ça. Il s'agit d'un sujet extrêmement important.
Oui.
Et le boss en chef du Québec, qui a décrété la fermeture des écoles et la fermeture, la paralysie de toutes les activités à cause de la COVID-19, ne semble pas savoir quelle direction prendre. C'est le boss en chef du Québec qui avait annoncé qu'on serait prêt à recommencer l'école au début de mai. Bon, à partir du moment où la population manifeste sans sortir dans les rues, naturellement, sur les réseaux sociaux et commence à faire des déclarations, le boss en chef du Québec est revenu sur son idée première, n'est-ce pas, de rouvrir l'école. Ça, là, il y a beaucoup d'improvisation, pas dans le geste de François Legault. Il y a beaucoup d'inconnus dans la réouverture de l'école, de sorte que quand on nous parle qu'on a besoin d'un mois, c'est peut-être un prétexte pour essayer de comprendre ce qu'on veut faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants, nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux?
Oui.
Je pense que c'est la grande question.
Oui. Mais moi, il me semble, si j'avais été le ministre de l'Éducation et que j'avais un certain nombre d'incertitudes, j'aurais donné des directions assez claires en disant, vous allez vous préparer comme si on reprend dans un mois. C'est, déjà en partant, le 12 mars, ça a été annoncé, le 13 mars, c'était fermé. J'aurais dit, OK, on est le 12 mars, mais là, vous allez commencer à préparer un scénario pour la réouverture dans un mois. Parce que, justement, le problème, c'est que ça a été mal géré dès le début. Pourquoi le Danemark réussisse à le faire? Nous, on n'est pas plus bêtes que les Danois, là.
Mais attendons voir les résultats. Au moins, donnons-nous 2 semaines sans dire que ça va être une catastrophe. Mais moi, je n'aime pas l'idée, effectivement, qu'on expose les plus jeunes alors qu'ils ne sont en rien responsables de la propagation de la maladie. Là, on s'entend?
Oui. Là-dessus, là, je suis d'accord avec vous. Sur le plan de la sécurité, de démarrer, redémarrer tout le système scolaire, il faut y aller avec extrêmement de prudence.
Mais Éric, oui. Moi je regarde ça, malgré tout ce qu'on me dit, je ne suis pas spécialiste de la chose.
Oui.
On nous dit que les enfants sont moins sensibles au coronavirus qu'aux adultes parce qu'ils peuvent être des porteurs sans déclarer, sans vivre la maladie comme telle, n'est-ce pas? Bon, ça c'est aussi le fait qu'ils peuvent contaminer les autres, etc. Mais rien ne dit que ces enfants-là, même s'il s'agit d'un seul enfant sur le million, je ne sais pas combien, qui seront concernés, un seul enfant qui décède du coronavirus parce qu'on l'a exposé, on l'a poussé à retourner à l'école de manière prématurée pour en faire une expérience de manière à ce qu'on renforce notre système immunitaire de la population en général et en commençant par les jeunes. Moi, je trouve ça insensé.
Ça, je suis d'accord, mais si c'était ça la raison qui avait été donnée, si c'était ça la raison, j'aurais dit amen, amen et amen. Mais c'est pas ça les raisons qu'on donne. Les raisons qu'on donne, c'est qu'on n'est pas prêt, c'est pas encore suffisamment salubre. On doit se préparer pédagogiquement. Alors que pour moi, c'est ça qui me choque, ce sont des raisons bidons. Si on dit qu'il y a un danger, ce n'est pas sage, là je dis parfait. Ça, c'est une raison qui est valable. Mais de dire que ça va nous prendre un mois pour rentrer à l'école, pour moi, ça, j'achète pas ça. Parce que ça se fait ailleurs.
Et je suis d'accord avec toi, Éric. Oui. D'accord. Mais par contre, si on dit qu'on est d'accord là-dessus, la société devrait répondre à cette question de manière très sérieuse.
Absolument.
Est-ce qu'on doit exposer nos jeunes au COVID ou à la COVID, parce qu'on suppose, on ne fait que supposer qu'ils sont plus résistants que les plus âgés si ce n'est pas tout à fait le cas.
Oui. Mais moi, c'est pour ça que si les élèves avaient à revenir en classe dans les prochaines semaines, c'est définitif que si j'étais le ministre de l'Éducation, j'exclurais le Grand Montréal. C'est clair. Il y a des régions au Québec que ça serait facile, plus facile du moins à gérer, et les enfants seraient possiblement pas à risque. Mais c'est clair que ce serait insensé et irresponsable, à mon avis, qu'on réouvre à l'heure actuelle les écoles montréalaises parce qu'il y a trop de cas de contamination. Et aussi, le nombre d'habitants par mètre carré est plus dense dans la région de Montréal. Alors ça, ce serait pas une bonne idée. Mais si on avait invoqué ces raisons-là, j'aurais dit « Ah, là, ça a du sens ». Mais on les invoque pas, ces raisons-là. On met ça sur le dos de d'autres critères, de d'autres raisons, alors qu'on touche pas les vraies affaires. Et c'est ça qui me met en colère.
Et tu as tout à fait raison d'être en colère parce que, bon, de temps en temps, il faut dire les vraies affaires et puis ça met davantage la population en confiance. Lorsque on comprend que les gens... Mais est-ce que tu as vu Marguerite aussi? Marguerite, la défendresse par excellence des aînés?
Oui, je l'ai vu livrer une entrevue à partir de ce que j'identifie comme son domicile. Selon le décor, là, elle devait être chez elle à ce moment-là.
Est-ce qu'elle t'a convaincu?
Ah, donc, c'est une très bonne communicatrice, hein?
Elle l'a fait pendant plusieurs années comme journaliste.
Oui, mais elle ne m'a pas convaincu, mais disons qu'elle elle est bien, bien articulée, elle défend bien son discours, mais elle ne m'a pas convaincu.
Et c'est un drame que vit le Québec par rapport à ses aînés, n'est-ce pas?
Ah là là, ça c'est catastrophique, mais... Le problème ne date pas d'hier et aujourd'hui, on est en train de récolter ce qu'on a semé dans le passé.
Absolument.
Et comment dirais-je? Je pense que le gouvernement en est conscient. Il est dépassé. Quand faut faire appel à l'armée, quand faut faire appel à des spécialistes pour aller donner des soins, ça veut dire qu'on est vraiment dépassé. Mais en même temps, ça nous lance le signal qu'on ne peut pas redémarrer l'activité sociale parce que si notre système de santé est dépassé en ce moment, bien, il faut y faire attention. Ce n'est pas juste une question de propagation ou de capacité d'endurer le malaise. C'est est-ce que notre système de santé est capable de recevoir davantage de gens malades? Est-ce qu'on est capable de traiter davantage de gens malades? Et dans l'ensemble, oui, mais au niveau des CHSLD, non. Et ça va être une grande question sociale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les sacrifie pour l'économie? Et je pense que ça va être une question qu'on devra répondre dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup, Éric Lantier, chroniqueur politique et social. Merci.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Il est 17h33. On s'en va à la pause commerciale. Et de l'autre côté, professeur Wilson Saint-Elmy, expert en gouvernance et membre du Centre de recherche en régulation et droit de la gouvernance de l'Université de Sherbrooke, sera avec nous.